Bon ben, oui, alors effectivement, là, l'idée d'un pas du jardin partagé comme modèle en quelque sorte d'habitation sur la planète Terre, voilà, me semble effectivement quelque chose qui n'est pas utopique en plus, qui est assez réaliste. Alors on peut penser au jardin planétaire de Clément, mais c'est en fait la plupart des gens qui ont des jardins partagés, ils savent que finalement ils se mettent. D'abord que les conséquences de leur activité ne s'arrêtent pas aux limites de leur lopin. Alors c'est ça qui est vraiment intéressant aussi. Que justement, il se passe sous la Terre toutes sortes de choses, d'ailleurs dont on ignore une grande partie. Et donc, on a une conscience comme ça de la dimension planétaire, finalement, des conséquences de l'agriculture qui naît, enfin qui est très, très présent dans toutes sortes de mythologies, hein, bien sûr, mais qui est aussi, je pense, réactivée à travers des notions comme celle de Gilles Clément ou celle de Todd Morden. Alors j'ai pas mal étudié Todd Morden qui ont inventé les incroyables comestibles, les incredible edibles. C'est très intéressant parce que ils ont le sentiment, eux, de changer le monde en plantant des légumes. C'était quand même ça leur idée. Et ils plantent des légumes, non pas dans des parcs, là en l'occurrence, mais sur les à-côtés, dans la ville, un peu partout, dans la cour de l'école, au cimetière, devant le commissariat, etc. Donc ils ont planté des légumes un peu partout. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le fait d'être en responsabilité d'un lopin, mais même si c'est un petit bac, hein, grand comme la table, un mètre carré, le fait d'être en responsabilité n'implique ni la propriété du bac, ni même la propriété des fruits, là en l'occurrence, pas des légumes, puisque les légumes sont pour tout le monde. Donc là, il y a vraiment un découplage entre l'activité et l'appropriation, qui est vraiment quelque chose aussi qui peut fonctionner sans frontières, en quelque sorte. Du coup, voilà. Enfin, disons, le régime qui est à l'œuvre ici, et qui relève d'une économie, est un régime qui n'est pas territorial et qui n'est pas propriétaire. Et ça, c'est intéressant de le noter, parce que quand même, ça offre des solutions aussi. Maintenant, est-ce que ce modèle va devenir effectivement planétaire, je ne sais pas, mais peut-être qu'il existe. Enfin, d'ailleurs, il existe déjà plus ou moins planétairement.
Champ d'expérimentation, si c'est pas un modèle, ce sera un champ d'expérimentation.
Oui. Par ailleurs aussi, justement sur la relation, enfin, disons le jardin partagé qui peut prendre des quantités de formes. Parfois, qu'il est des lots qui sont complètement disjoints, par exemple répartis dans une ville, parfois qui au contraire sont reliés dans un terrain communal, par exemple, mais là, j'étais à Berlin il n'y a pas très longtemps et j'ai visité justement des jardins partagés dans des zones contaminées. Mmh. En particulier dans l'ancien aéroport, ouais. D'une part, ouais. Et d'autre part, là, sur un site, enfin, c'est aussi dans le sud-est de Berlin, où il y a tout un site qui était en fait des usines, des garages, donc les sols sont imbibés de pétrole ou de je ne sais quoi. Et donc, en fait, ils ont créé un système d'une part de recyclage qui leur permet de produire du zéro. Et d'autre part, un système de bacs. Donc, alors, c'est soit des bacs en des sacs, des sacs en bâches, ou alors des bacs en bois, etc. Donc, vous avez des jardins en quelque sorte suspendus.
Ouais.
Et il y en a partout. En fait, j'en ai vu à Berlin, mais il y en a vraiment dans le monde entier, en fait, des jardins qui sont créés comme ça, qui ne sont pas en communication directe avec la terre, mais qui sont, un peu suspendus. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est des. En plus, avec. Alors, le jardin que j'ai vu qui était là, sur cette zone, occupé anciennement par de la construction mécanique et des garages et des usines, je ne sais pas quoi, était un jardin là destiné à la pluralisation des semences. En fait, ils ont. J'ai fait une photo, il y avait au moins 50 variétés de pommes de terre. Les gens amènent des graines, ils amènent des plantes, alors on apprend à bouturer, on apprend à semer, et puis chacun reprend des boutures, les ramène à droite à gauche, etc. etc. Donc voilà, ça c'était pas un jardin, parce qu'il est à petite échelle. Donc voilà, il y a vraiment des solutions comme ça qui sont inventées au fur et à mesure, moi qui me semblent assez intéressantes. Enfin, plus qu'intéressantes, puissantes, quoi. C'est vraiment des. Il y a cette idée aussi que je voyais à Todd Morden, qui était beaucoup assenée par les héros de ce mouvement, c'est que le jardin, c'est vraiment pour tout le monde. Enfin, le jardinage suppose des compétences, mais en même temps repose sur le fait que les compétences peuvent être acquises par la plupart, par tout le monde, en fait. Et qu'il y a toujours. Il y a du travail pour tout le monde, et que tout le monde peut, par l'intermédiaire d'une formation, accéder à une capacité de jardiner, etc., etc. Donc ça, c'est aussi des modèles, moi, qui me semblent vraiment intéressants du point de vue, justement, de la mise en cause du hiatus savoir ordinaire ou savoir-faire d'un côté, voire savoir pas faire du tout, et puis expertise de l'autre. Parce que là, c'est vraiment même la notion d'expertise qui se casse la figure, qui n'a plus même d'effectivité dans ce cadre du jardin partagé. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un poste, encore une fois, d'observation, même si il y en aurait des formes très différentes. Ça peut être un poste d'observation pour mettre en exergue aussi des problèmes sur lesquels on bute et qui sont un peu, qui entravent finalement notre marche, si on peut dire, vers l'écologie démocratique et surtout vers la contribution des paysans à l'invention d'une écologie démocratique. Parce que je pense que les paysans ont quand même un rôle à jouer dans cette transition écologique et que pour l'instant...
Sur la surdétermination de la dimension sociale, effectivement, elle est perceptible. Je pense qu'on est aussi d'accord sur l'idée qu'il y a une surdétermination de la dimension écologique qui est tout aussi effective, mais non visible. Et c'est ça qui est intéressant à étudier, c'est pourquoi l'une paraît évidente dans la prise en charge des politiques publiques et pourquoi l'autre doit être justifiée, légitimée et toujours reléguée. C'est une priorité secondaire. Et nous, ce qui nous a intéressé dans le travail qu'on a effectué, c'était de partir de ce point de vue de la surdétermination des enjeux écologiques, qui de toute façon vont impacter encore plus. On a montré ça sur les effets de ségrégation sociale liée aux questions écologiques. Sur la durabilité zéro, Jean-François Caron dit toujours, à chaque fois qu'il intervient au niveau du Nord-Pas-de-Calais, il dit on est la région qui est le symbole même de la région non durable. Voilà. Donc ça revient un peu à ton idée. On a mis tous les dispositifs pour ne pas pouvoir perpétuer l'expérience sociale dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et c'est intéressant parce que la ville de Los Angeles avait travaillé à un moment donné sur les trajectoires. Comment on amène des rémistes à réfléchir sur la question de l'écologie. Bon, alors ça a plutôt bien marché sur un certain nombre de choses, ça a plutôt des limites maintenant, parce que les gens se disent, si on va vivre comme ça tout le temps, ça ne va pas forcément être rigolo. Je vais revenir là-dessus. Donc sur la condition d'insertion dans cette trajectoire, là effectivement il y a un travail, mais d'éducation populaire, c'est un terme galvaudé, ou voire même assez ignoble à utiliser. Mais c'est en même temps ce qu'a fait le travail de l'Université populaire et citoyenne, ce qu'a fait le collectif de l'Union. Il y a tout ce travail. Voilà. Alors là où moi j'ai deux réserves par rapport à ce que Joël a présenté par rapport à ta remarque, c'est que je trouve que vous maintenez un imaginaire du possible qui est plus celui du réalisable. C'est-à-dire, je m'explique, la manière dont tu as présenté la démocratie libérale reste dans un imaginaire de l'infini. Voilà. C'est un espace où chacun va pouvoir s'épanouir, s'autonomiser, être indépendant. Tout le monde à Sao Paulo va pouvoir vivre comme il a envie de vivre, etc. etc.
C'est un...
On va pouvoir entraîner un mouvement d'émancipation de l'individu par une extension de la réalisation de ses désirs et de ses capacités.
Okay. Non, je dis ça. On était bordé dans le risque.
Oui,
c'est du risque.
Pour amener un mouvement, il faut quand même que tu les projettes dans un imaginaire positif. C'est-à-dire, on va réguler le risque, on va réussir à le contrôler, on va réussir à le faire disparaître, etc. Pareil pour la vision idéale de l'expérimentation que tu as développée. C'est un peu la limite entre l'expérimentation qui est positive pour des individus qui participent et la capacité de faire système à partir de cette expérimentation. Et il y a là deux limites importantes dans ce que vous avez questionné. C'est à la fois la confrontation de ce désir de faire système à partir d'une expérimentation qui se heurte à un imaginaire quand même dominant qui est celui de l'hédonisme consumériste, qui reste le modèle attractif pour tout un chacun. Et on voit même à travers les expérimentations, toutes les études qu'on a menées sur les jardins partagés, les ajoncs, etc., depuis quelques années, montrent bien que c'est parfaitement compensable dans les pratiques de vie des individus. Autrement dit, ils vont faire du jardinage, et puis après, ils vont utiliser leur bagnole, ils vont prendre l'avion, etc. Donc ça n'entraîne pas une transformation effective des comportements individuels par rapport aux enjeux environnementaux. C'est plutôt ce que disait Illich dans une pratique de convivialité, c'est l'autonomie qui est retrouvée grâce à la capacité de maîtriser, à un moment donné, son activité, lui redonner sens et le redonner sens collectivement. Mais fondamentalement, par rapport aux contraintes écologiques, ça ne change pas grand-chose. C'est mieux, mais c'est pas suffisant. Donc ça, je pense que... alors, tu vas me dire que c'est mon côté pessimiste, etc. Mais je pense que dès lors qu'on considère qu'il y a une possibilité d'extension des possibilités d'action indéfiniment, parce que c'est le projet de la démocratie, parce que c'est le projet de l'émancipation des individus, on fait comme si on était décontextualisé de cette contrainte territoriale. Alors, je donne un dernier exemple, après je m'arrête. On bosse avec des AMAP. Les AMAP, ça ne marche pas. Ça marche ponctuellement, ça ne s'inscrit pas dans le temps, parce qu'il n'y a pas de terre. Il y a des paysans qui veulent s'installer, mais ils ne trouvent pas de terre. Et ensuite, socialement, c'est extrêmement contraignant. Économiquement, c'est extrêmement discriminant. Et ensuite, il y a un taux de rotation extrêmement important, parce que les gens ne veulent pas être assujettis à une consommation alimentaire contrainte.
Bon, en 30 secondes, évidemment, on n'a pas dit du tout que c'était un espèce de désir hédoniste d'y développer. Pourquoi ? Parce qu'on est cadré par la société du risque, et ce qu'on propose, c'est une réflexion à la Sloterdijk. Hein. Comment on habite en bulle ? C'est-à-dire, comment on va pouvoir réhabiter dans des zones contaminées, comment pouvoir réhabiter là-dedans, en expérimentant un habitat inhabitable. Donc c'est tout à fait le contraire de ce que tu dis. Donc c'est pas compris, mais c'est pas grave. Mais je veux dire, non, nous on est en train de se dire, on expérimente un habitat en mutation qui est inhabitable, et on va faire en mule, on va expérimenter un certain nombre de choses. Le risque est invisible, on expérimente un truc artistique pour le percevoir. Le risque est en train de se diffuser. On fait des analyses de controverse pour, comme il fait, hein, pour voir cette espèce de propagation aberrante. C'est pas du tout ça. On est en train de s'inventer des instruments pour se repérer dans un environnement hostile. On ne connaît pas du tout dans la satisfaction hédoniste. Rien à voir.
Peut-être France.
Oui. Même parce que c'est pas possible d'amener le jardin partagé. Maintenant, à Saint-Paul, on va faire des jardins. Non, c'est pas possible, ça. Impossible. Bien sûr qu'on peut arriver vraiment en jardin. Mais je pense que c'est la réflexion d'y avoir un espace commun, comme on a des occupations irrégulières, que nous sommes en train de faire, régularisation soustenable, voilà. Mais c'est un espace commun où les gens peuvent partager les biens communs, et aussi partager l'exercice de l'ensemble.
Oui, ce que propose Joël, hein, mais ce n'est pas le jardin partagé du tout. Ouais.
Oui, et on n'a pas du coup parlé, discuté avec Francis, parce que du coup, on s'est
trouvé... Je pense qu'il y a juste quand même quelque chose qui me frappe dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a un problème d'urgence. Il y a un problème d'urgence au plan de l'environnement, donc... Comment faire pour que tout ça aille quand même très vite, quoi. Moi, c'est ça qui me tourmente le plus à l'époque.
Je partage complètement.
Mais en même temps, il n'y a pas de modèle tombé d'en haut. Enfin, je pense que le chemin de l'expérience, c'est peut-être le... Enfin, en tout cas, c'est ce que disaient effectivement les pragmatiques. C'est quand même le chemin le plus court pour arriver à nos fins. Même s'il paraît plus long. Enfin, il n'y en a pas vraiment d'autres, quoi.
Moi, j'ai pas de position arrêtée du coup, parce que j'ai suivi les échanges et donc ma position évolue en fonction de ce que vous dites. Mais je pense que ce qui est un des problèmes quand même, c'est là où je suis désolé, mais la thèse de la catastrophe, c'est qu'il y a quand même une concurrence des porte-parole sur ces histoires, mais qu'il faut commencer par là. Et que tu ne peux pas parler des paysans. Je suis désolé, moi j'ai fait des interviews avec la FNSEA, là. C'est des salauds de racistes.
Ah oui, mais.
C'est les négros qui vont ramasser la merde qu'on a foutu devant Auchan, on s'en fout. C'est ça que j'ai entendu. Tu te rends compte quand même, la coordination rurale a attaqué le gouvernement en 2014 pendant le pic de pollution en disant « Foutez-nous la paix, on a besoin d'épandre, maintenant il pleut pas. » Moi, j'ai assisté à un conflit entre deux membres de la Confédération paysanne, dont Beauvais et un de ses pires ennemis, qui était plus gauchiste que lui. C'est-à-dire, ils sont plus cons les uns que les autres. Tu peux pas dire « Je suis porte-parole du paysan. » Donc tu ne peux pas être porte-parole de l'éco-quartier, tu ne peux pas être porte-parole des favelas. Donc, ne jetons pas le bébé avec le... je sais pas quoi. Mais il faut déjà avoir une bonne science sociale de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui une parole qui a une empreinte et qui porte, pour essayer déjà d'y voir clair, parce que sinon c'est la concurrence et on s'enferme nous-mêmes finalement dans ce modèle d'aller alimenter soit le catastrophisme de l'un, soit l'optimisme de l'autre, le méliorisme, l'écologisme, alors il faut tous voter Nicolas Hulot pour éviter Le Pen, tu vois, tu tombes dans des trucs. À mon avis, voilà, la sociologie est à reprendre et à reprendre sérieusement pour commencer, pour avoir des discussions. Parce que je suis d'accord, moi, je trouve ça excitant de circuler dans la littérature et dans la philosophie pour retrouver des liens entre les objets. Mais plein d'acteurs le font déjà sur le terrain. Hein. Tu vas chez Ruth Stegassi, tu reprends toutes les émissions, elles sont en ligne. Ouais, tu vas en trouver.
Il y a la mienne du samedi, d'ailleurs.
Voilà.
Bon, samedi, voilà. Ça sera sa dernière.
Mais donc, la question, c'est. Et ensuite, c'est effectivement la création des rapports samedi de force et comment certains acteurs parviennent ou non à déplacer des forces. Dans certains cas, ça marche. Alors, je sais que c'est une controverse que j'ai avec Dominique Peste qui est assez violente. Il dit on n'a jamais arrêté une technoscience qui veut avancer. Je dis si, les OGM. On a arrêté les OGM en France pour l'instant.
On a ralenti.
On les a arrêtés, parce que quand même, pour l'instant, faire des OGM, c'est compliqué. Maintenant, ils vont essayer la mutagenèse, et hop, tout de suite, conflit, et ça repart. Donc, et à un moment donné, tu as bien quelque chose qui a pris. Et là, effectivement, les paysans, au sens de la Confédération paysanne, ont le droit de jouer. Mais ils l'ont joué avec Auchan et Carrefour. Donc, c'est des coalitions qui sont contre nature par rapport à nous. Parce que c'est pas incompatible pour le moment des collectifs avec des consommateurs.
Cool.
On voit bien, quoi. Enfin, bref, je pense qu'il faut sortir un peu des... Parce que sinon, on a effectivement le cadre d'office ou l'optimisme ou l'Éden. Merde, quand même.
Mais tu l'auras la catastrophe. Sois patient.
Non, mais même Fukushima, si tu veux, moi j'ai été le premier à dire ça y est, il y a un basculement irrémédiable dans le nucléaire.
On a vu Tchernobyl.
Je veux dire, 5 ans après, je veux dire.
Ça, c'est des catastrophes ponctuelles, c'est pas.
Les ponctuels, tu ne peux pas dire ça pour les gens qui ont été évacués de la zone.
Non, mais ça, c'est ponctuel, c'est des accidents qui montrent le fait que nous ne raisonnons pas par rapport à la question énergétique. C'était ce que expliquait Kaufmann à la dernière réunion là, sur l'acceptabilité sociale. Dès lors que ça paraît comme un accident, c'est acceptable.
C'est une catastrophe, pas comme un accident.
Ça a été régulé comme ça. Et puis, le scandale qui est actuellement sur la question des manipulations des données de certification de la construction des centrales nucléaires devrait être un coup d'arrêt définitif.
Moi, en tant que citoyen, j'en suis persuadé. En tant que sociologue, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et ce que j'observe, c'est qu'ils n'ont pas lu Expert et Faussaire. C'est-à-dire, plus tu mets des normes de régulation, et plus les acteurs vont frauder, parce qu'ils font tenir leur dans la pratique, ils ont besoin de faire plein de trucs. Et on est les premiers, quand on remplit des trucs à NR, des machins, etc.
On rigole. On
bidouille.
On
dit raison.
Donc, jamais, moi, monsieur.
Coup, bon, jamais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment remettre une sociologie au cœur de tout ça, sinon c'est vrai qu'on voit des continents séparés, ce que je trouve dommage.
Bon, en tout cas, personnellement, je n'ai pas parlé des paysans en général. Hein, je vais quand même préciser mon mode d'avis.
Oui, oui.
Oui, non, mais c'est très précisé.
Alors, enfin, tu as dit que le paysan est quand même le modèle du citoyen.
Je n'ai pas dit ça. J'ai cité Jefferson à une époque où il n'y avait ni pesticides, ni... il y avait le
pendé,
tabac, le coton.
Pendé, oui,
on disait aussi, d'ailleurs que le tabac, le coton... Terre.
Non, mais sur le fond, on est d'accord. Aujourd'hui, il faut devenir de nos formulations publiques. Moi, je vois le lanceur d'alerte, voilà, je prends le martyr, parce que c'est devenu un délateur. Quoi. La loi, certains d'eux, est en train d'organiser la délation qui va servir d'ailleurs le régime ultérieur, alors que ce n'était pas du tout ça, c'était quelqu'un qui ouvrait un processus d'enquête. L'impact des concepts et des normes qu'on manipule dans les sciences sociales sont...
Ouais. En même temps, parce qu'il y a eu la figure de l'ouvrier. C'est vrai qu'il y a toute une vision, si vous voulez, de la politique qui vient d'une espèce d'essentialisation, là, pour le coup, et de généralisation de la figure de l'ouvrier et du prolétariat, on va dire. Pareil que j'ai fait, il était un peu aussi quand même dirigé contre cette essentialisation.
Non, mais ça, j'ai compris,
mais c'est de l'autre faute parce qu'on n'a pas.
Du coup, peut-être pas essentiel.
Après, il y a des détails dans mon bouquin.
Oui, mais je vais le lire, je ne l'ai pas encore.
J'ai un peu oublié.
Je ne l'ai pas envoyé, je l'ai commandé.